Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Comme le rappellent souvent les académiciens, le mot « crise » du grec « crisis » signifie « décision ». Et c'est vrai qu'avec la crise de notre système de santé, il devient urgent de prendre des décisions pour assurer la pérennité du service de santé français qui se veut être le plus performant au monde. Mais quelles décisions prendre pour contrôler la croissance des dépenses de santé, car le nœud du problème est là. Depuis un déficit record de 24 milliards d'euros en 2010 de notre système de santé, l'objectif est clair, réaliser des économies avec pour ambition de baisser ce déficit de 40% pour l'année 2012. Alors, peut-on dépenser moins et soigner mieux? Voilà la question qui pourrait résumer le sujet de notre émission. Pour parler avec nous des mesures en cours et celles qui pourraient voir le jour dans un objectif de sauvegarde de notre système de santé, qui englobe à la fois les soins et l'assurance maladie, deux intervenants sont avec nous, les professeurs Jean-François Mattei et Michel Huguier. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio. Jean-François Mattei, vous êtes donc ancien ministre de la Santé, actuel président de la Croix-Rouge française, membre de l'Académie nationale de médecine. Vous avez dirigé l'ouvrage collectif « Santé, égalité, solidarité » avec votre confrère Claude Dreux, un ouvrage publié aux éditions Springer en novembre 2011. Le professeur Huguier, vous êtes donc Michel Huguier, chirurgien, membre de l'Académie nationale de médecine, où vous êtes secrétaire de la commission assurance maladie et, je précise, ancien conseiller technique de Madame Simone Veil, qui est entrée à l'Académie française il y a maintenant un peu plus d'un an. Jean-François Mattei, Michel Huguier, ce déficit de l'assurance maladie est lié à plusieurs choses. Le vieillissement de la population, le coût du progrès médical innové suppose d'investir, et puis une prévention qui, pour beaucoup de professionnels de santé, est jugée insuffisante. À partir de ce constat, j'imagine qu'il est difficile de tabler sur des économies directes, si je puis dire, dans le domaine de la santé, puisque l'allongement de la vie est un fait, on ne peut pas limiter l'innovation, bien au contraire, et le seul point sur lequel on pourrait tabler, c'est la prévention, mais avec des résultats, j'imagine, à très long terme, d'où la nécessité peut-être de réaliser des économies à travers le déremboursement de médicaments à service médical rendu insuffisant, le SMR insuffisant, la limitation des séjours à l'hôpital, la lutte contre les fraudes ou encore l'augmentation de taxes sur notamment le tabac, les alcools et depuis peu les boissons sucrées. Est-ce que, et donc cette question s'adresse à vous deux, est-ce qu'on écope à la petite cuillère ou est-ce que ces mesures permettent de faire déjà des économies importantes? Professeur Huguier, pour commencer.
Je crois que si la résultante c'est effectivement les problèmes financiers. Lorsqu'on parle de l'avenir de notre système de santé, il a en fait trois composantes. Il y a d'une part, vous y avez fait allusion, la prévention et la santé publique, qui me paraît fondamentale et sous-estimée, malgré un rapport parlementaire tout récent qui vient d'être publié. Il y a deuxièmement les soins, et troisièmement, effectivement, leur conséquence, qui est le financement de l'ensemble des dépenses que ça implique.
Professeur Mattei.
Alors, c'est évidemment, vous avez bien choisi le début de notre échange, car c'est la clé de voûte. Le problème qui se pose dans notre pays est un problème de financement, et nous sommes à la fois prisonniers du système qui a été choisi après la libération, à savoir un financement au travers des cotisations sociales, et d'autre part, devant toute une série de modifications importantes de notre système de santé qui conduisent à augmenter plutôt les coûts qu'à les diminuer. Alors, je voudrais d'emblée dire qu'à mon avis, la réforme première de notre système de santé doit être une réforme de son financement. Monsieur Huguier le sait comme moi, les problèmes de déficit de la sécurité sociale et singulièrement de l'assurance maladie sont posés d'une manière d'autant plus aiguë que le chômage s'accroît. Car évidemment, dès lors que le chômage s'accroît, c'est moins de cotisations salariales et donc une diminution des sommes à disposition du service de santé. Et dès lors, vous avez des déficits. Et au lieu de pointer l'insuffisance de financement, on pointe l'excès des dépenses. Et la solution que l'on trouve est toujours au niveau du système de santé, jamais au niveau du système de financement. Alors, je ne veux pas être trop long, mais je pense qu'il est temps de sortir de ce système de financement. C'est abordé récemment tout à fait, j'allais dire presque à la marge, par ce que l'on appelait la taxe, la TVA sur anti-délocalisation, d'autres l'appellent des TVA sociales, destinées à financer notre politique familiale. Mais il est clair que la politique familiale n'a rien à voir avec le travail et que je ne vois pas comment et pourquoi la politique familiale serait financée par des prélèvements sur le salaire de ceux qui travaillent. Et je pense, par ailleurs, qu'il faut même étendre ce raisonnement. Le maintien de la santé de la population et l'accès aux soins est une tâche, un devoir régalien de l'État, au même titre que la justice, que la défense, que l'éducation et d'autres. Et donc, je pense qu'il faut désormais qu'on aille de plus en plus vers une fiscalisation de notre financement du système de santé, en faisant très attention à une deuxième chose fondamentale, c'est que ce système de santé est basé sur la solidarité et que l'on ne peut pas effacer cette référence. C'est la raison pour laquelle je pense personnellement qu'il faut trouver une clé de répartition avec un budget de l'État qui assure au moins la moitié, voire davantage, du financement du système de santé et l'autre moitié étant prise en charge par les personnes elles-mêmes, par des assurances complémentaires, avec un système d'aide d'acquisition à la complémentaire qui serait dégressif au fur et à mesure que le revenu des personnes augmenterait. Donc, un système double qui maintient la solidarité et qui replace l'État dans ses responsabilités. Alors, je pourrais étendre beaucoup plus les choses, si vous voulez qu'on y revienne en détaillé, mais à mon avis, la clé, elle est là. La santé ne peut pas être financée uniquement par ceux qui travaillent.
Si j'ai bien compris, vous dites aussi que plutôt que de faire des économies, il faut trouver de nouvelles recettes.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire d'économies, parce que le gaspillage est toujours une catastrophe. Mais si vous voulez, j'avais utilisé cette image dans le passé, quand vous remplissez un bassin, il faut d'abord s'assurer qu'il ne fuit pas. Et donc, il faut d'abord colmater les fuites, c'est-à-dire trouver tout ce qui est gaspillage, dépenses excessives, abus, consommation, etc., etc. Et après, on remplit le bassin au niveau nécessaire pour pouvoir disposer suffisamment de l'eau dont on a besoin. Et c'est une question de simple bon sens, bien sûr. En revanche, je voudrais attirer votre attention parce que j'ai un peu réagi lorsque vous avez dit allongement de la vie sur coût. Probablement, mais pas au niveau où on veut le dire. Car l'allongement de la vie n'est pas un allongement systématique d'une vie malade. Ce qui veut dire que l'allongement de la vie n'est pas nécessairement un allongement de la période pendant laquelle on a besoin d'être soigné.
Mais en même temps, on sait qu'une personne de plus de 65 ans va prendre en moyenne 5 médicaments par jour.
Oui, probablement. Je n'ai pas dit que ça n'était pas une des causes, mais il ne faudrait pas dire que c'est l'allongement de la vie qui entraîne, etc. etc.
Professeur Huguet.
Je voudrais exprimer, non pas par flagornerie, c'est pas mon genre, mais mon plein accord avec ce que vient de dire Monsieur le ministre et mon cher confrère. Dans un premier temps, l'important me paraît la lutte, je dis bien la lutte, contre la surconsommation et le gaspillage. Et je vais vous en donner une preuve chiffrée, si vous voulez. Les dépenses de ce que les économistes appellent les soins biomédicaux en France sont supérieures à peu près d'1% du produit intérieur brut par rapport à nos voisins, non seulement allemands, mais aujourd'hui britanniques. Et 1% du PIB, ça fait à peu près 18 milliards par an. 2% de plus que les Italiens. Or, on ne peut pas penser globalement que les Français se portent beaucoup mieux que les Allemands, les Italiens ou les Anglais, et inversement. Donc, indéniablement, on peut gagner considérablement en efficience. Et je crois que c'est la première chose finalement à obtenir, c'est colmater les fuites d'eau du bassin auquel M. Mattei faisait allusion. Et ensuite, inéluctablement, qu'on le veuille ou non, il se posera le problème de revoir les modes de financement de notre système d'assurance maladie. Car où la protection sociale et l'assurance maladie sont préservées et il sera nécessaire de réformer le financement, ou alors on maintient le mode de financement. Et à ce moment-là, notre assurance maladie, telle qu'on la connaît et qu'on l'apprécie, s'altérera peu à peu.
je le disais en préambule, un déficit record en 2010, de l'ordre de presque 24 milliards d'euros. Depuis, on arrive quand même à diminuer, cela à travers déjà plusieurs mesures, notamment, alors bien sûr, ce sont des mesures qui parlent au plus grand nombre, donc un déremboursement d'une partie des médicaments qui sont dits à service médical rendu insuffisant. Peut-être qu'on en reviendra aussi sur ce déremboursement, vous me direz ce que vous en pensez, sur aussi une automédication de plus en plus effective, et puis sur, il y a peu de temps, on en a encore parlé, sur le développement de la chirurgie ambulatoire et de rester le moins possible à l'hôpital. À chaque fois, est-ce que ce sont pour vous des mesurettes ou est-ce que ce sont des mesures qui véritablement permettent de diminuer le déficit de la sécurité sociale, du système de santé ? Jean-François Mattei.
Alors, écoutez, chacune de ces mesures a son importance et doit être prise en compte. Ce qui est gênant depuis des années et des années, c'est qu'on ne voit pas se construire la cohérence d'un système dans son ensemble. Toutes ces mesures sont importantes. Bien sûr que d'éviter les hospitalisations prolongées, ça fait faire des économies, c'est justifié à la fois pour le confort du malade et grâce au progrès de la médecine, le professeur Huguet en parlerait mieux que moi comme chirurgien. L'automédication, bien sûr, mais on peut difficilement parler d'automédication sans encadrer malgré tout la consommation de ces substances en revalorisant le rôle du pharmacien dans son conseil lors de l'achat de médicaments par les gens, quand bien même serait-il délivré sans ordonnance. Donc on a toute une série de mesures qui s'intègrent absolument dans un plan d'ensemble. Mais on ne voit pas ce plan d'ensemble. Écoutez, depuis Madame Simone Veil jusqu'à aujourd'hui, nous avons vécu plus d'une trentaine de plans de sauvetage de la sécurité sociale. Et pour faire vite, à chaque fois, on a diminuer un peu les taux de remboursement et augmenter un peu les taux de prélèvement. Eh bien, je considère que nous sommes arrivés au bout du bout et je dois dire que lors de mon passage au ministère, que j'étais en charge de préparer la réforme de la sécurité sociale, j'étais en désaccord avec ceux qui me demandaient de faire cette réforme car je ne voulais pas d'une réforme qui soit seulement provisoire et un arrangement provisoire. Donc, je pense qu'il faut aller au fond.
Alors, juste avant de laisser la parole au professeur Huguet, puisque vous parlez de votre passage au ministère, justement, donc, depuis, il s'est passé une dizaine d'années, comment vous observez justement l'évolution de cette prise en charge d'un problème qui semble irrésoluble ?
Écoutez, d'abord, je crois qu'on est en train de parler du financement, il faut aller au bout, mais notre système de santé, ça n'est pas qu'un problème de financement. C'est un problème d'exercice, c'est un problème d'organisation. Pourquoi y a-t-il des hôpitaux qui doublonnent ? Pourquoi y a-t-il des zones qui sont désertifiées ? Pourquoi est-ce que les gens, je crois que les gens sont aussi intéressés à savoir qu'ils sont à moins de 30 minutes d'un service d'urgence pour avoir accès à des soins en cas d'accident ou en cas d'une urgence véritable ? Ils sont aussi préoccupés de ça que du déficit de la sécurité sociale et même probablement davantage. Donc je pense qu'il y a le financement, mais ça ce sont les moyens. Après, il y a la mise en œuvre dans tout un système dont nous avons la trame. Parce que le paradoxe, c'est que les Français, dans les données que nous avons récemment, montrent qu'à la fois ils sont inquiets, mais qu'ils sont satisfaits. Qu'ils sont très contents des soins qu'ils ont, mais néanmoins, ils montrent une très grande inquiétude pour l'avenir. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on assure le financement et qu'on réorganise notre système. C'est un vrai travail de toute une mandature et qui ne plaira pas forcément parce qu'on va bousculer des habitudes, bousculer des droits, bousculer le système actuel et que donc on sait toujours ce que l'on perd et on ne sait pas toujours ce que l'on gagne au bout. Il faut donc du courage pour toucher à cette sécurité sociale qui est un de nos éléments fondateur de notre politique sociale. C'est un acquis social majeur du XXe siècle. Il n'est pas question de le mettre en cause dans sa finalité.
Alors, parlons justement de la réorganisation de ce système. Un grand point que l'on retrouve et dans le rapport de l'Académie nationale de médecine, adopté le 17 mai 2011, mais aussi dans l'ouvrage que vous avez dirigé, Jean-François Mattei, Santé, Égalité, Solidarité, la question de la prévention. La prévention, comment peut-on mesurer les effets de la prévention et peut-on générer, alors pardon d'être encore assez pragmatique, peut-on générer des économies importantes ? Est-ce qu'on peut avoir des exemples ? Professeur Huguet.
On peut aussi apprécier les conséquences de la non-prévention. Il est très clair qu'avec l'augmentation du tabagisme chez la femme, on voit aujourd'hui augmenter de façon dramatique l'incidence du cancer pulmonaire chez la femme en France. Et avoir un cancer du poumon et en mourir, c'est sûrement pas une des manières les plus agréables de mourir. Il est navrant de constater qu'en France, 20% des femmes enceintes fument. L'obésité, passée de 1997 de 8% à 15% en 2009, plus 32% de Français en surpoids. Avec toutes les conséquences, si vous voulez, médicales qui ont été clairement prouvées, l'hypertension artérielle, le diabète multiplié par 12 fois chez l'obèse, les dyslipidémies, les cirrhoses, les coxarthroses, et le coût en a été évalué à peu près à 6 milliards par an. L'alcoolisme, notamment aigu chez le jeune, dont quelques-uns, excusez ma brutalité, mais terminent leur courte existence dans les morgues des instituts médico-légaux, comme une de nos collègues y faisait allusion avant-hier à l'Académie de médecine. Donc il est très clair que des actions vigoureuses, claires, en matière de santé publique, auront d'abord et avant tout un aspect bénéfique, c'est évident, pour la santé de la population, et puis indirectement, mais ce n'est pas l'objectif principal, seront une source de moindres dépenses, donc d'économies, si vous voulez, pour la collectivité.
Jean-François Mattei.
Oui, je suis évidemment en parfait accord avec ce que vient de dire Michel Huguier. On est encore placé devant un paradoxe, et il y en a tellement dans notre population française. Le paradoxe, c'est que la population française veut être protégée. Elle veut être protégée contre la grippe, elle veut être protégée contre cette pneumopathie atypique qu'on a appelée le SRAS, elle veut être protégée du sida, elle veut être protégée de pratiquement de tout. Elle a une exigence, et vous savez qu'aujourd'hui, on est dans une exigence du risque se rapprochant le plus possible de zéro. On comprend très bien cette exigence d'être protégé. Mais dans le même temps, ils ont une deuxième volonté, c'est d'exercer leur liberté et de vivre comme ils l'entendent. Autrement dit, si j'ai envie de fumer, je continue de fumer. Si j'ai envie de boire, je continue de boire. Si j'ai envie de fumer un peu de shit, je continue à fumer un peu de shit. Si je veux conduire quelquefois un peu vite, je veux continuer à le faire. Et naturellement, je veux manger comme j'ai envie de manger, et tous ces rappels de 5 légumes et fruits par jour pour la santé et sur les matières grasses, etc., etc. J'ai même entendu dire quelquefois, vous n'allez pas nous réinventer une nouvelle présentation des 10 commandements. Tu ne mangeras pas ça, tu ne fumeras pas, tu n'auras pas de rapport sexuel non protégé, etc. C'est des empêchements de vivre. Et donc on a le paradoxe, on veut vivre librement, mais on veut être protégé, aller vers un risque zéro. En réalité, il faudrait peut-être ramener la population à la notion de responsabilité. Chacun est responsable de soi et il l'est non seulement devant soi, mais devant les autres dès lors qu'il y a un système solidaire où tout le monde paie pour les soins nécessités par chacun.
Alors je vous propose de marquer une pause si vous le voulez bien. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission et je vous laisserai la parole tout de suite après, professeur Huguier. Merci.
Homme politique, écrivain, journaliste et même rugbyman, retrouvez le parcours exceptionnel d'Arthur Comte, un homme libre raconté par sa fille Dominique Bonnat. Entre les couloirs de l'Assemblée ou de l'ORTF, plongez dans la culture catalane. Téléchargez dès à présent l'émission consacrée à Arthur Comte sur canalacademy.com.
Suite de notre émission éclairage en compagnie des professeurs Mattei et Huguier. Dans cette deuxième partie d'émission, professeur Huguier, je vous ai coupé dans votre élan. Vous vouliez faire deux citations, je crois.
Je voulais citer Madame Veil et citer Monsieur Mattei lui-même. Non, Madame Veil, il y a un peu plus de 10 ans, avait déjà exprimé dans des termes un peu différents ce que vient de dire 1000 fois raison Monsieur Mattei. Lorsqu'un drame se produit, c'était surtout à propos des agences, les protestations se multiplient. Mais les mêmes Français ne tolèrent pas une réglementation qu'ils estiment trop tatillonne, trop lente, trop lourde, et encore moins des contrôles tendant à assurer la surveillance de cette réglementation. Et M. Mattei, il y a 3 ans, dans un périodique, disait, c'est un peu le même, toujours pareil, « Chacun est tout à fait d'accord pour des mesures collectives à condition qu'elles ne le concernent pas ».
Si vous voulez bien, on va poursuivre dans notre émission puisque vous avez abordé plusieurs choses. Professeur Mattei, vous avez parlé aussi de la question de la réorganisation des soins. Alors parlons de l'hôpital. C'est un sujet qui inquiète beaucoup les Français. Il y a d'ailleurs une citation dans l'ouvrage que vous avez dirigé qui est donc, je cite, « L'hôpital n'est plus un enfer, mais il ne sera pas un paradis. » C'est-à-dire que entre les questions que se pose le public sur la prise en charge des patients, sur la question d'humanisme, puisque vous parlez aussi beaucoup d'humanisme médical, sur la prise en charge des patients, de l'écoute des patients, donc la demande des patients, et puis après une réalité où il y a de moins en moins de moyens, en tout cas de personnel, là aussi il y a un nouveau paradoxe. Professeur Mathieu.
Oui, il y a un paradoxe. L'hôpital ne peut pas être un paradis, puisque par définition, les gens qui y entrent sont des gens inquiets, souffrants, qui espère, certes, mais qui traverse une épreuve. Et ce n'est pas l'idée que je me fais du paradis, que ce soit une épreuve. En revanche, on pourrait éviter que ce soit un enfer. Non seulement je le vis au quotidien encore à l'hôpital, mais lorsque j'ai fait un rapport en 1996 sur santé et environnement, je me suis penché sur hôpital et environnement. Et j'ai eu moi-même à traverser des hospitalisations. Je peux vous dire que c'est un endroit où vous n'appréciez pas d'être réveillé à 6 heures du matin par des bruits abominables dans les couloirs, où vous n'acceptez pas que le rythme de repas et la nature des repas ne soient pas correctement réglés, mieux organisés. Vous êtes totalement dépaysé. Et puis alors, je dois le dire, sans polémique aucune, les 35 heures à l'hôpital ont été un drame, dans la mesure où ça n'est plus le patient qui est au cœur de l'organisation de l'hôpital, mais le temps de travail des gens qui y travaillent. Et qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez aujourd'hui être patient, voir un médecin le lundi, qui vous demande d'être hospitalisé le mardi, mais le mardi vous enverrez un autre parce que lui est en récupération, et puis on va vous opérer le mercredi, un troisième, et peut-être que ce sera un quatrième qui vous verra le jeudi. Ça n'est pas rassurant, ça n'est pas humain. Le malade, quelles que soient les circonstances, il a besoin de se confier à une personne. Cette personne peut être une interface, peut-être un trait d'union, peut-être un lien, peut-être un médiateur, mais c'est la personne à laquelle vous allez vous livrer. Quand vous avez raconté votre vie une première fois à un médecin, vous n'avez pas envie de recommencer le lendemain et puis le surlendemain. Donc je pense qu'il faut que l'on revoie l'hôpital et qu'on mette le patient au milieu.
Alors
donc ça, c'est pour l'hôpital.
Le public est tout à fait acquis à la cause, mais justement, qu'est-ce qu'on fait, professeur Huguier, peut-être, sur ce point, oui, et votre expérience aussi.
L'hôpital est l'exemple aigu d'une certaine évolution, si vous voulez, de l'exercice de la médecine et des relations entre le médecin et le malade, avec, là encore, des formidables paradoxes. C'est-à-dire que les avancées de la médecine, qui ont été considérables, l'ont transformé peu à peu en un bien de consommation courante. On a transformé peu à peu le malade en usager. On a transformé peu à peu le médecin en prestataire de soins. Et finalement, toutes les contreparties de ces avancées technologiques sont une déshumanisation progressive de l'exercice médical et qu'on vit à l'hôpital de façon peut-être encore plus intense parce qu'on y est plus malade encore qu'ailleurs que vivent les malades.
Ce que je voudrais ajouter, c'est que les patients ne s'y sentent pas toujours aussi bien qu'ils pourraient l'espérer, mais que les personnels qui y travaillent y sont également très malmenés. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les plus jeunes qui nous suivent, médecins, hommes, femmes, de plus en plus de femmes d'ailleurs, les infirmières, les chefs de bloc, bref, les aides-soignantes, tous ceux qui travaillent dans ces hôpitaux ne sont pas très heureux de leurs conditions de travail. Je reviens sur l'affaire des 35 heures à propos d'un exemple précis. Autrefois, il y avait un petit tuilage entre l'équipe du matin et de l'après-midi et du soir. Il y avait une petite demi-heure pendant laquelle on échangeait un certain nombre de consignes. Tu verras tel malade, il présente tel geste. Maintenant, pour gagner du temps, ça se fait par écrit. Et donc, ça tue un peu cette ambiance un peu familiale. Alors, je veux bien qu'il ne faut pas noircir les choses, les gens sont quand même très bien soignés, mais ils ont ce dépaysement qui s'accroît et qui accroît probablement leur inquiétude et quelquefois leur solitude. Donc, tout n'est pas noir. En pédiatrie, on a considérablement amélioré les choses. Au contraire, autrefois, les familles n'étaient pas admises avec les enfants. Elles étaient admises pendant les 4 heures de visite l'après-midi. Et puis, elles étaient mises à la porte tranquillement vers 19 heures. Aujourd'hui, les familles, les parents peuvent rester. C'est un bien. Donc, il ne faut pas non plus noircir systématiquement le tableau. Mais je pense que nous avons de très gros progrès à faire pour humaniser, à la fois pour ceux qui souffrent et qui espèrent la guérison, et ceux qui y travaillent.
Avec quels moyens ? puisque les moyens humains, on ne les a pas forcément. Si vous augmentez le numerus clausus, par exemple, pour les médecins, je crois que les effets vont se sentir qu'à partir de 2012, et encore, je ne sais pas si ça règle tous les problèmes. Comment vous faites, puisque je suis certaine que les patients, comme les médecins, sont tout à fait d'accord pour passer du temps ensemble. Mais c'est le temps qui manque aussi.
Oui,
professeur Huguet.
Je voudrais dire, je suis mille fois d'accord avec ce que montre, si vous voulez, la pratique médicale hospitalière quotidienne pour quelqu'un qui s'attache un peu à son double devoir, qui est le nôtre, qui est un devoir de science et un devoir d'humanité. Que faire ? Que faire ? Je pense personnellement, et je vais citer Confucius, il faut tout simplement que les médecins fassent de la médecine. Et actuellement, je peux vous assurer que les médecins hospitaliers sont submergés plus que jamais par des réunions dont l'efficacité est dérisoire et qui pourrait être évitée, par des tâches administratives. Et c'est la raison, alors c'est peut-être le seul petit point de désaccord que je peux avoir avec M. Mattei, par les pôles et les chefs de pôle. Les chefs de pôle actuellement consacrent en moyenne 70% de leur temps à faire de l'administration, et ces chefs de pôle à l'échelon national sont au moins 4000. Il y a donc 4000 médecins qui actuellement distraient leur temps d'exercice médical, 70%, à faire de l'administration. Donc on a quand même une réserve potentielle de médecins pouvant se reconsacrer à temps plein à leur activité médicale qui n'est pas négligeable.
Alors, si vous me permettez, je vais répondre, Michel Huguet, c'est bien qu'après tout on trouve des points de discussion, parce que sinon c'est le consensus absolu. C'est moi qui ai inventé l'épaule. Et je persiste à penser qu'avec le recul du temps, c'est plutôt une bonne chose. Je l'ai fait après une longue visite au Canada et avoir accueilli pendant un an dans mon service un médecin pédiatre qui terminait ses 4 années de chef de pôle au Canada. Et il me disait, voilà, je fais mon année sabbatique parce que je vais retourner au lit du malade. Et pendant 4 ans, j'ai assumé la tâche administrative, comptable, financière et l'organisation d'un pôle. Parce que nous n'avons pas 36 alternatives. Ou bien nous nous en remettons totalement à l'administration, nous autres médecins, et c'est l'administration qui va tout organiser, ou bien il faut se plier à un certain nombre de contraintes quand nous demandons des budgets, nous demandons des équipements, nous demandons des postes, ce qui évidemment implique du temps. Alors ou bien chacun le fait en ordre dispersé. Et alors, bien sûr, c'est pas 60-70% du temps de chacun qui va être consacré, mais c'est 10-12%. Et donc, j'ai préféré qu'il y ait une personne pour une durée déterminée qui concentre, quitte à lâcher complètement le contact avec le patient, ou en tout cas selon les besoins, et puis qui, au bout de 4 ans, retourne au lit du malade. Mais il faut qu'on ait en face de l'administration des médecins responsables de leur activité clinique, biologique, de soins, de recherche, d'enseignement, et qui puissent parler au nom d'une communauté autour d'une activité qui constitue un tout.
Poursuivons ces questions de réorganisation et puis après on va avancer. On parle de l'hôpital, mais aussi se pose la question des médecins libéraux. Que pensez-vous des mesures incitatives pour une meilleure répartition des médecins sur le territoire, sur un maillage beaucoup plus équilibré sur le territoire français, professeur Huguet ?
Alors, pour reprendre l'exemple de la piscine, je crois que ce n'est pas en rajoutant de l'eau dans la piscine qu'on arrivera à augmenter sa capacité hydrique si par ailleurs il y a des fuites partout. Autrement dit, c'est pas en augmentant le numerus clausus que vous allez résoudre le problème des zones peu nombreuses.
Mais ce qui est le cas actuellement, le numerus clausus a été augmenté.
Oui, ce qui me paraît une erreur. C'est une erreur. L'histoire du numerus clausus est quand même compliquée. Je vais pas en faire l'historique. Il devait être réaugmenté dans les années 85. C'est ce qu'on avait prévu en 78 avec Madame Veil. Il ne l'a pas été. Et la conséquence a été la diminution du nombre de médecins à laquelle on assiste aujourd'hui. Bon, ce que je voulais dire, ce n'est pas en augmentant le numerus clausus que vous allez régler le problème des zones, surtout périurbaines et rurales, démédicalisées. C'est avec d'autres moyens. Ces autres moyens sont actuellement en cours d'essai. Il faut laisser un certain temps, ce n'est pas du jour au lendemain, où vous allez convaincre les étudiants en médecine de Lille, de Paris-Ouest ou de Marseille, à aller s'installer en zone rurale. Il va falloir du temps pour rattraper ça et pour que les mesures incitatives qui existent actuellement puissent être évaluées dans leurs résultats.
Alors,
Je suis évidemment en accord, mais je voudrais quand même ajouter quelques réflexions. D'abord, en matière de numerus clausus, rien n'est pire que le stop and go. C'est-à-dire, on diminue, et puis on s'aperçoit 12 ans après qu'il n'y en a pas assez, on remonte brutalement. Quand je suis arrivé en 2002 au ministère de la Santé, j'ai bien vu que le numerus clausus était notoirement insuffisant, et j'ai décidé de le remonter progressivement jusqu'à 7000, qui me paraissait être le maximum raisonnable. J'ajoute à cela qu'il fallait prendre en compte que de plus en plus de médecins sont des femmes et que les femmes ne consacrent plus, comme les hommes, 100% de leur temps à la pratique. Que donc, il fallait moduler les choses. Donc, moi, je trouve aussi, comme M. Huguet, que dépasser 7000, ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas en augmentant la formation des gens qu'on va régler le problème des déserts médicaux, tant que la liberté d'installation, la liberté de choisir sa spécialité sera pas suffisamment régulée. Alors, deuxième élément, c'est qu'il y a les conditions de vie et les exigences de vie aujourd'hui. Il y a de moins en moins de conjoints ou de familles qui acceptent de vivre dans un milieu rural, loin de toute vie commerciale, sociale, culturelle. Et donc, on voit se créer petit à petit ces déserts. Quand on va plus loin dans l'analyse, montre aussi que les médecins fuient de plus en plus l'exercice solitaire. Ils veulent de plus en plus pouvoir discuter avec un confrère d'un cas difficile et ne pas porter tout seul le poids d'un diagnostic qui n'est pas évident. Et donc, je crois que la solution, elle est claire. Et en 2003, j'avais proposé, mais c'était un peu audacieux, semble-t-il, et les esprits n'étaient pas prêts. J'avais dit, nous sommes en 2003, prenons des mesures incitatives en avertissant ceux qui rentrent en médecine en 2004. Et en 2014, pour prendre y compris les spécialistes, nous évaluerons et nous verrons bien à ce moment-là si les mesures incitatives ont porté leurs fruits. Si elles n'ont pas porté leurs fruits, il faudra augmenter encore ces incitations parce que l'éventail est large jusqu'au non-conventionnement, etc., qui là peut être vécu même comme une mesure contraignante. Et puis, quelquefois, peut-être serons-nous, dans certaines régions, amenés à déroger aux règles de financement. L'acte n'aurait plus le même prix en tel endroit, les conditions d'exercice ne seraient plus les mêmes, et puis les exercices regroupés seraient facilités. Je ne crois pas beaucoup à la contrainte et à la peur du gendarme. Un médecin, il a quand même besoin d'être bien épanoui pour être un bon médecin. Et vous ne pouvez pas le contraindre. Bon, en revanche, je connais ça au travers de la Croix-Rouge dans les pays africains. Presque tous les, si vous voulez, c'est dramatique d'ailleurs, sur 40 médecins formés dans un pays comme la République centrafricaine, vous en avez la moitié qui trouve le moyen de s'échapper pour aller exercer à l'étranger, et puis un quart qui reste dans la capitale Bangui, et puis il en reste un quart pour le reste du pays. C'est notamment insuffisant. Donc je pense qu'il faut qu'on aille éventuellement vers des périodes obligées d'exercice pendant 2, 3, 4, 5 ans. Les formules sont nombreuses, on n'a pas le temps. On peut aussi faciliter l'ouverture de ce que l'on appelait autrefois les cabinets secondaires. Vous êtes à Marseille, vous exercez 4 jours par semaine dans votre cabinet à Marseille, et puis vous consacrez un jour dans une maison médicale avec 4 autres médecins qui font la même chose que vous, mais vous vous partagez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et vous avez ainsi assuré une permanence médicale, car je crois que les gens ont droit, ça c'est un vrai droit, à l'accès aux soins.
Alors, on va avancer et puis la mission en plus se termine, donc on va aller très vite. Juste encore 2 questions. Puisque vous parlez de la réticence justement de ces médecins, peut-être à être seuls en milieu rural, il y a ces maisons de santé qui se développent, je crois, 230, ou en tout cas on va vers ce chiffre de 230. Est-ce que ça marche vraiment? Et est-ce que c'est une des réponses, des questions à ces problèmes de déficit?
Ça me paraît être une des réponses parmi les autres qu'a cité M. Mattei. Je pense, comme lui, que les contraintes, si vous voulez, ne peuvent qu'échouer. Et en plus de ça, elles auront des effets pervers, dans la mesure où ces contraintes vont s'exercer essentiellement vis-à-vis des généralistes, et les spécialistes s'en seront préservés. Et ça va ne faire qu'accentuer l'appétence des jeunes diplômés, si vous voulez, pour s'orienter vers des spécialités au détriment de la médecine générale, qui me paraît un problème très grave de déséquilibre au sein d'un ensemble médical entre spécialistes et généralistes.
Je suis d'accord, totalement d'accord. Ce que je pense, c'est que les maisons de santé, je les ai aussi lancées. Aujourd'hui, je suis heureux de voir qu'après des réticences, des discussions incroyables avec les syndicats de médecins, le modèle est accepté. Cela étant, il y en a qui marchent très bien. Il y en a d'autres qui marchent moins bien. Ça dépend de la bonne volonté des gens, ça dépend du climat, ça dépend de l'environnement, ça dépend des caractères des praticiens. Mais il est vrai que dans une petite bourgade, avoir une maison de santé dans laquelle il y a 3-4 médecins, 2 infirmières, un masseur-kinésithérapeute, ça fait déjà une présence médicale qui rassure et qui, je crois, est nécessaire.
Dernière question, et ça sera ma dernière question, qui revient finalement un peu au début de notre émission, puisque j'ai sous les yeux une étude qui date du 13 octobre 2011, étude réalisée par l'IFOP pour le groupe PHR, groupement des pharmaciens d'officine. Et donc la question, notamment, plusieurs questions sont posées, notamment celle-ci, j'aimerais que vous réagissiez sur ce point, et puis on terminera ainsi. En pensant à une évolution du système de financement de soins, diriez-vous que, et donc là 72% des sondés répondent à, il faudrait faire contribuer financièrement les industries pharmaceutiques au financement de la sécurité sociale pour 72% du public. Que pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que l'industrie pharmaceutique doit être dans le viseur ?
Puisque c'est la dernière question, je vais laisser Michel Huguet conclure et donc je vais m'exprimer le premier. Je pense que l'industrie pharmaceutique n'est pas la vache à lait du système de santé. Je pense profondément que l'industrie pharmaceutique doit investir dans la recherche, qu'il faut des années et des années pour étudier des centaines de molécules et en trouver une qui va pouvoir être mise sur le marché, être réellement efficace et permettre de rembourser. Oui, l'industrie pharmaceutique peut être mise à contribution dans certains domaines, mais il ne faut pas en attendre un financement conséquent de notre système de santé. Je pense que si l'industrie pharmaceutique doit participer à la formation des médecins, faciliter les réunions scientifiques, voire ouvrir des bourses pour des médecins qui s'installeraient justement dans les milieux désertifiés, pourquoi pas ? Mais il n'y a pas que l'industrie pharmaceutique, il y a aujourd'hui toute la biomédecine industrielle, c'est-à-dire tout ce que sont les appareillages, les prothèses, les machines, tout ce qui tourne autour. Cela étant, il faut bien voir que plus vous solliciterez la production pharmaceutique, et plus elle se délocalisera pour aller dans des pays où il n'y aura pas ces charges supplémentaires, et après ça, on se plaindra de la désindustrialisation du pays. Donc attention, oui, associer l'industrie pharmaceutique, mais pas la considérer comme une vache à lait pour ajuster un équilibre budgétaire.
Professeur Guillet, le mot de la fin.
Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter à ce que vient de dire M. Mattei ? Il est tellement facile de dire on va traire la vache à lait. Alors que je vous ferai remarquer que l'industrie pharmaceutique contribue déjà au financement en partie de l'assurance maladie. Et ensuite, il faut bien veiller aux effets pervers, si vous voulez, de cette contribution qui deviendrait excessive de l'industrie pharmaceutique. Comme chirurgien, j'ai jamais prescrit ou presque un médicament et je suis d'une indépendance totale par état d'esprit, par principe, mais en plus de ça dans la réalité vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Mais il faut faire très attention, si vous voulez, aux effets pervers de solutions apparemment séduisantes et en fait beaucoup plus compliquées que ce qu'on peut imaginer.
Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous voir. Je donne juste les références pour terminer des éléments qui m'ont permis de préparer cette émission. Le premier, donc un ouvrage d'ailleurs beaucoup plus ouvert que sur les questions de sécurité sociale et de soins. Donc le titre « Santé, égalité, solidarité, des propositions pour humaniser la santé ». On ne s'est pas trop attardé sur l'humanisme dans le médical. On aurait pu en reparler, faire une émission dessus. Donc un ouvrage sous votre direction, professeur Jean-François Mattei, et celle de votre confrère Claude Dreux, édité aux éditions Springer en 2011. Et puis également, un autre élément, le rapport publié par l'Académie nationale de médecine, adopté le 17 mai 2011 sur des propositions pour une réforme de l'assurance maladie. Merci à tous les deux d'être venus nous voir, et puis j'espère à bientôt pour avancer sur ces questions. Merci à vous.